je viens vous acheter votre jardin.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il n'en est pas question.
Mais si, monsieur, tout se vend, tout s'achète. 1 million!
C'est non, c'est impensable.
2 millions!
C'est non!
100 millions!
C'est bon, il est à vous.
CO2, mon amour.
Pourquoi vous êtes venu acheter mon jardin?
Pour en mettre un autre à la place, monsieur, c'est tout simple. Vous allez voir. D'abord, je coupe. Je coupe tous les arbres. Après, je creuse. Un trou, un gigantesque, un énorme, un fantastique trou. Et après, avec ce trou, cet immense trou, qu'est-ce que je fais? Une décharge pour les ordures. Attention, des ordures nobles.
Denis Chessou.
Des déchets d'une toxicité mortelle. Horreur, terreur, personne n'en veut. Moi, oui, venez à moi, petit conteneur. Venez à moi, grand fût.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Anne-Laure Cochet, le Diroyer à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Évidemment, ça commence par une petite actualité, une petite humeur. Journée européenne du patrimoine, c'est la fête aux vieilles et aux jeunes pierres. L'occasion de se pencher, alors pas que sur la tour de Pise, mais sur notre passé de constructeurs, de bâtisseurs d'avenir. Alors notez que ces journées où l'on incite donc l'européen que nous sommes tous, à s'arrêter de courir tel un hamster dans la roue de sa cage pour prendre le temps de contempler ce qui l'environne, nature incluse, hein, qui est le premier patrimoine duquel on a extrait des matériaux, puis après on l'a construit, et c'est déjà pas mal. Au cours de cette semaine, d'ailleurs, l'humanité a hérité d'un joli caillou dans sa chaussure qui concerne un autre patrimoine génétique, celui-là, si vous savez bien, les petites graines qui font un jour les récoltes avec lesquelles on alimente plus de 7 milliards d'humains. Des petites graines qui constituent donc un enjeu patrimonial, on y revient, considérable pour des géants adeptes du transgénique et dont le bel appétit n'est plus à démontrer. Alors deux de ces géants, et là on est très loin du BGG, vous savez, le bon gros géant de Roald Dahl, pas du tout, viennent de convoler. Monsanto offre son âme et son corps à Bayer. Les bans sont officiellement publiés en première page du Roundup Magazine. Alléluia, les abeilles en bourdonnent de joie. 59 milliards d'euros de dot tombés dans l'escarcelle de la mariée permet d'envisager un peu sereinement quand même l'avenir. Alors le couple ainsi constitué représentera le tiers du marché des semences et un joli 27% du marché des pesticides. Allez, encore un petit effort. Une belle mainmise donc sur notre nourriture, sauf à revisiter individuellement notre assiette. Alors Bayer donc absorbe une des entreprises les plus détestées de la planète, symbole des excès de la mondialisation agricole, mais elle se met ainsi à l'abri d'un rachat d'un des plus gros concurrents. C'est ainsi que ça se passe aujourd'hui. Et comme il s'agit en fait du même modèle économique que Monsanto à base de brevets sur le vivant, vu la puissance de feu du groupe, la prochaine discussion qui sera menée à la Commission européenne, ça va être fin 2017, sur l'autorisation du glyphosate sera très éclairante. Car Bayer sera en pole position pour maintenir ce gentil produit dans les rayons avec la bénédiction des gros céréaliers. Mais en fait, ce mariage est une idée qui est tout à fait logique et géniale. D'un côté, on a des gens qui empoisonnent les sols et la planète, mais qui doivent d'ailleurs sûrement en manger bio à titre personnel, c'est comme ça. Et puis de l'autre, vous avez un groupe qui fabrique, entre autres, des médicaments pour nous soigner. Et oui, la boucle est bouclée. Voilà donc un bel exemple d'économie circulaire. Et puis quand même, autre actualité. Moi je vais vous dire, moi j'ai la passion de la France, de l'écologie et du réchauffement climatique. Hein, vous parlez des OGM, monsieur Chessou. D'accord, ils n'ont pas fait leur preuve que ça sauverait l'humanité. Bon, mais pour les faire accepter, il n'y a qu'à faire des OGM bio. Les gens, ils veulent pas de pesticides dans leur assiette qui tue les sols. Faut faire des pesticides bio. Faut faire des aéroports de Notre-Dame-des-Landes bio, des autoroutes, des centrales nucléaires, des gaz de schiste bio, Des déchets radioactifs bio. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Oui, mais alors quand même, ce réchauffement climatique, vous avez dit... Écoutez, monsieur Chessou, vous faites une émission avec un nom d'accord original un peu ridicule, c'est au de mon amour. Bon, pour mon amour... Moi, je suis d'accord. On a déjà fait 50% du chemin ensemble. Mais vous voyez bien que je suis là pour rassembler. Hein, bon, mais je vais vous répondre. C'est la journée du patrimoine. J'aime ce mot. Ça rappelle la patrie et les racines catholiques de la France. D'autant que je connais sur le bout des doigts l'évangile selon Saint Claude Allègre.
allègre, ça veut dire enthousiasme, ça veut dire joyeux, oui, oui. Et il y en a toujours eu de ces machins avec la Terre qui se réchauffe, qui se refroidit, qui se réchauffe, qui se refroidit. Bon, on ne sait pas ce qu'elle veut dans le fond, la Terre. Eh bien, moi, je le sais. Je vais prendre 2-3 heures de nance, comme chez le médecin, pour soigner la fièvre de la Terre, et hop, on stabilisera tout ça. Mais attendez, moi je vais quand même vous citer. Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. Oui, alors bon, d'accord, j'ai peut-être un peu changé de discours depuis le Grenelle de l'environnement, quand je proclamais que l'écologie était une conviction. Bon, j'ai dit aux Nations Unies que le problème était absolument incontournable. Mais c'était une autre époque. Eh ben oui, 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 justement, c'était un autre climat. Je suis pas climato-sceptique, moi, monsieur. Je suis réaliste. Et une partie de mes électeurs comprend encore moins que moi ces sujets-là. Le GIEC, ils savent même pas ce que c'est, où ça habite, tout ça, voilà. Puis moi, je vais vous dire, je constate des choses. Quand je rentre dans une salle, dans un studio de télé, sur un meeting, je prends la parole et la température, elle monte tout de suite de plus de 2 degrés. Hein ? Mais vous allez quand même pas m'accuser de faire fondre les glaciers, enfin ! Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Alors, au moins, une chose est sûre, avec le réchauffement, nous ne serons pas privés de déserts. Bonjour, cher Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour, cher Denis, et merci pour ce très joli moment de radio.
Bah, vous êtes bien. Bon, alors je m'adresse à la fois donc au président de la LPO et aussi aux membres donc du CESE, du Conseil économique, social, économique et environnemental. On va se faire une toute petite actualité quand même, parce que c'est pas complètement inintéressant. Nous étions tous les deux aux Assises nationales de la biodiversité, donc qui ont lieu il y a quelques jours à Clermont-Ferrand, et le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a sorti quand même que les véritables écologistes, eh bien, c'était les chasseurs face aux bobos des villes. Petite réaction peut-être de votre part.
Ouais, je suis effondré de voir que Philippe Meunier, pour ne pas le citer, considère que pour gérer la biodiversité, ben, il y a d'un côté les bobos des villes et de l'autre les véritables acteurs du monde rural qui connaissent le territoire parce qu'ils pratiquent tous les jours et tous les week-ends la chasse. Voilà. Alors ça, c'est la référence. C'est pas bien d'opposer aussi caricaturale des acteurs de la société.
D'autant qu'on peut bosser aussi avec des chasseurs.
Exactement, qui auraient tout intérêt dans l'intérêt général. Et on vient quand même d'accorder, Laurent Wauquiez, près de 3 millions d'euros sur 3 ans aux chasseurs pour des activités cynégétiques. Alors que ce qui me paraît prioritaire, c'est l'intérêt général, justement, la gestion des milieux naturels, la préservation des espèces, etc. Et puis je rappelle quand même que la région Rhône-Alpes, historiquement, avec l'Alsace, c'est vraiment là que s'est construit la culture, la conscience environnementale, et de voir qu'aujourd'hui elle est méprisée de cette manière, c'est pas acceptable.
Voilà, mais il y aura des Center Park, il y aura une autoroute à 45 aussi, voilà. Avec, d'ailleurs, avec la bénédiction de M. Vidalis, il faut le dire également. Oui. Autre actualité.
Il y aura également des canons à neige, hein, il faut.
Ah, bah, c'est voilà. Vrai.
Bah oui. La solution touristique, on le sait.
Gérard Larcher, président du Sénat, deuxième personnage de l'État et aussi vétérinaire, donc a remis en avant la chasse, les chasses traditionnelles, en particulier la chasse à la glu.
Voilà, et il considère qu'il faut évidemment maintenir la chasse à la glu. Grâce au Sénat, ben, c'est le cas, hein, c'est-à-dire cette chasse qui consiste à mettre des petits bâtonnets dans les arbres avec une espèce de colle dessus et les oiseaux viennent se faire pendre, quelles que soient les espèces. Alors on nous dit évidemment que
c'est de la glu, c'est de la glu made in France, peut-être on vous dit.
Ça permet de... Et puis, de la même façon, ben, le déterrage, c'est-à-dire la chasse au blaireau en pleine période de reproduction, c'est-à-dire que on capture les adultes et les jeunes restent à agoniser dans les terriers. Au 21e siècle, maintenir ces deux activités...
On vous dit que c'est de la tradition. Alors, Alain, on va terminer tranquillement quand même par aussi une actualité là qui est très positive. Il y a eu donc ce rapport, la contribution des emplois de la biodiversité à la transition énergétique. Qu'est-ce que l'on peut dire à des jeunes donc aujourd'hui qui nous écoutent et qui se disent, moi j'ai envie de rentrer effectivement là-dedans, mais qu'est-ce que ça va représenter? Et
alors,
là, vous avez rendu ce rapport.
Il y a un énorme potentiel, Denis. On parle, Ségolène Royal, 100 000 emplois en 3 ans à venir. Actuellement, il y a plus de 300 000 emplois identifiés. On peut dire globalement que ça représente une quarantaine de métiers différents répartis dans 6 grandes familles. Hein. L'administration, l'éducation, l'aménagement. Alors, je vous donne quelques exemples de métiers, hein, parce qu'ils sont très divers.
Bien sûr.
Vous avez, par exemple, exemple, les juristes en environnement, ça existe aujourd'hui, les informaticiens en environnement, concernant l'éducation, l'accompagnateur nature, évidemment, journaliste nature, l'aménagement des milieux naturels, vous avez les agents d'entretien du patrimoine naturel et paysager. Dans la recherche, il y a beaucoup de chargés d'études en biodiversité employés par les associations, tant qu'elles auront les budgets des régions. Ça, c'est encore autre chose.
Oui, c'est votre histoire, ça, oui.
Bon, l'eau et la police de la nature, garde nature, etc., production agricole. Vous avez actuellement 73 000 conseillers en agriculture qui peuvent favoriser l'agroécologie. On voit donc qu'il y a un potentiel formidable. Il faut se former, hein. Il y en a beaucoup qui disent « Moi, j'aime la nature, les animaux, donc je veux faire un métier. »
Oui,
là-dedans.
Mais c'est pas suffisant. Faut quand même...
C'est pas
oui.
suffisant, voilà.
Bien d'accord. Grand merci Alain Bougrain-Dubourg. On vous retrouve demain matin avec Patricia Martin.
Oui, exactement.
Vous serez en direct, hein, avec Baratou.
Oui, en direct.
Bon, voilà, donc, un grand merci, puis à très très bientôt.
À bientôt, là. Merci Denis.
J'allais partir. Mais là, ça change tout. T'as vu l'état de la voiture.
Oh, merde. Ça, c'est marrant.
Oui.
On dirait les mêmes rayures que t'as sur ton crâne, Jessie.
Des branches piquantes, hein. Tu le savais qu'il y a une bête. C'est comme les dents de la mer. Tu voulais pas paniquer la clientèle ordure.
Oh, mais c'est une évidence. C'est des traces de puma ou de cougar.
Ou de loup. Ils les ont réintroduits en Europe.
J'ai été griffé par un loup.
Mais arrêtez de délirer. C'est un gros chat qui a été attiré par les poubelles et puis c'est tout.
Denis Chessou. Sur France Inter.
Les Bronzés numéro 3, donc un chef-d'œuvre, effectivement. On aime beaucoup le repasser et c'était juste après Dionysos, chanson d'été, que nous pourrons diffuser jusqu'au 21 septembre à minuit. Alors je vous amène maintenant dans le département du Lot à la rencontre de Lydia et de Claude Bourguignon, des hommes et des femmes, enfin une femme et un homme qui connaissent très bien le sol.
La balade de Denis Chessou.
Et là, où va-t-on, cher Claude Bourguignon?
Ben là, on va vers la petite maison de vigneron qu'on a restaurée, qui va servir de petite maison de dégustation. On dégustera au milieu des vignes.
Claude et Lydia, on est chez vous. Et alors, c'est très intéressant parce que vous êtes, vous, originaire donc, de Bourgogne. Alors, on connaît hein, les militants du sol que vous êtes. C'est quoi l'histoire de ce lieu? Parce qu'on est quand même dans ce très beau département du Lot. Ouais, on a un petit château là-bas.
C'est le château de Roussillon. On est à côté du château de Roussillon. Et autrefois, tous ces coteaux qui sont abandonnés, où on voit des meurgets, c'était que des vignes. Donc là, il faut imaginer que tout le coteau, oui, avant le phylloxéra, était couvert de vignes.
Et alors, le phylloxéra, Claude Bourguignon, ça a complètement en fait asséché, on le sait, bon nombre de régions de France. On est dans les années 1870 à peu près. Ça a été aussi le cas ici pour le Cahors.
Oui, parce que Cahors avait déjà été un peu appauvri par Bordeaux, qui utilisait les vins de Cahors pour améliorer les vins de Bordeaux, oui, avec les vins de Gaillac et ceux de Bergerac.
C'est-à-dire qu'il renforçait les années qui n'étaient pas très bonnes.
Voilà, c'est ça, il les renforçait avec les vins de Cahors, de Gaillac et de Bergerac. Et donc, il leur payait pas cher. Et quand le phylloxéra va arriver, ben, ils n'ont pas les moyens de replanter. Et ce département va se dépeupler complètement.
Le sol, pendant des années, des dizaines d'années, on n'a fait simplement qu'un support pour les plantes. Et heureusement, maintenant, on commence à se reposer donc des questions. Lydia et Claude Bourguignon sont des gens qui ont été tout à fait décriés, donc comme tout un peu les lanceurs d'alerte, spécialistes de la vie des sols, chercheurs et créateurs du laboratoire d'analyse de microbiologie donc des sols. Chez eux, comme son nom l'indique, hein, en Côte d'Or, Claude Bourguignon. Et alors, ils nous rappellent toujours que sur 30 cm d'épaisseur, eh bien le sol héberge 80% à peu près de la biomasse du globe, hein. 80% des organismes vivants sont dans le sol. Voilà, vous avez intérêt à prendre une petite loupe, etc., pour les regarder, parce que ça ne se voit pas beaucoup. Et donc, dans ce sol très mince, il y a beaucoup plus d'êtres vivants que sur le reste de la planète. Et alors, nous allons aller donc chez eux, aussi dans le Lot. Alors, vous avez cette rivière, le Lot, et puis son copain, le Célé, qui ont tailladé avec beaucoup de tendresse et quelques millions d'années de boulot, le calcaire tendre de ce beau département rural. Nous sommes alors dans un endroit qui est bio. J'en profite pour vous dire aussi que du 17 au 25 septembre, vous avez une opération géniale qui s'appelle Manger bio local, c'est l'idéal. Manger bio local, c'est l'idéal. Vous avez 500 événements en France, vous avez des fermes bio qui s'ouvrent à vous un peu partout. www.bioetlocal.org, ça y est, je l'ai dit. Mais on est effectivement dans ce bio. Donc on est au nord de Cahors, et avec Lydia et Claude Bourguignon, la petite définition du sol. Je suis un sol, qui suis-je ?
Le sol est un milieu unique, puisque c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est-à-dire qu'il est formé de matière organique, les humus, et de matière minérale, les argiles. Les attaches qui relient ces deux mondes opposés, parce que le monde du carbone, le monde de l'organique, c'est le monde du carbone, le monde des argiles, c'est le monde de la silice, ils sont attachés par un phénomène étonnant qu'on appelle les charges électriques. Mais le problème, c'est que ces attaches sont fragiles. Contrairement à l'air, qui sont des attaches atomiques, les gaz, ils ont des attaches atomiques, on ne peut pas détruire l'air, on ne peut pas détruire l'eau, parce que ce sont des attaches atomiques. Donc l'homme peut les polluer, il ne s'en prive pas d'ailleurs, il pollue l'eau, il pollue l'atmosphère. Mais le jour où on arrête de polluer, l'eau redevient pure, et l'air redevient impur. Ce qui n'est pas le cas du sol. Le sol, une fois qu'on l'a cassé, une fois qu'on a détruit sa matière organique, les argiles partent, et là, le sol, il est parti. C'est-à-dire qu'on l'a perdu, on a perdu notre patrimoine, on s'est ruiné. Et on fait croire aux agriculteurs qu'ils s'enrichissent. Non, ils ne s'enrichissent pas, ils s'appauvrissent, puisque en moyenne, on a perdu depuis la guerre 30 cm de sol en France. Ah donc oui. C'est quand même pas rien, hein, au point de vue patrimonial. Vous calculez ça sur 30 millions d'hectares, ça fait quand même beaucoup de millions de tonnes, de milliards de tonnes qui sont partis à la mer.
Qui sont partis à la mer par les rivières. Lorsque l'on voit des rivières qui sont marrons, c'est jamais bon signe.
Ça. Voilà. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la Terre est en train de partir.
Ici, en fait, c'est de la vigne qui est assez neuve. Hein.
Oh là là, c'est très très jeune.
Ah oui, c'est très jeune, ça. Et donc, il n'y a pas si longtemps, c'était recouvert de broussailles, de petites forêts.
On devine un peu des arbres qui sont en ligne, là, des chênes qui sont en ligne, parce qu'après le phylloxéra, ils ont planté des truffiers. Ouais. C'était leur façon pour eux de survivre un petit peu, de trouver une activité agricole pour survivre, c'était les truffiers. Donc on devine encore des lignes, des arbres plantés en ligne, là, ces petits chênes rabougris, c'était des chênes truffiers. Puis maintenant ils sont trop vieux, ils ne produisent plus.
Alors ça c'est aussi un peu une réalisation de votre rêve, parce que vous avez travaillé pour beaucoup d'agriculteurs, pour beaucoup de viticulteurs, en analysant, vous êtes un peu des médecins du sol. Hein. Et alors là, la chance que vous avez, c'est que ce sol-là, il est très sain au départ.
C'est un terrain très sain, mais pourquoi on est arrivé ici? C'est un architecte en 93 qui nous a demandé de venir analyser ses sols. Il est un peu plus loin, là, sur les coteaux, pour planter de la vigne. Et bon, on a fait les travaux qu'il fallait. Et quand on a vu les sols qu'il avait, mais on a dit, mais c'est incroyable, c'est fantastique, les sols du Lot. On est sur le Quai Méridien, donc c'est le même étage géologique que Chablis. Il y a un côté, même au niveau du climat, la structure du sol, très bourguignon. Donc on s'est dit,
C'est quand... là, c'est pour nous, cette affaire.
C'est pour nous, cette affaire, en plus.
Et puis le décor, quand même, voilà. du Lot, là.
C'est extraordinaire, quoi. Il n'y a rien. On est que des collines couvertes de végétation autour de nous, quoi. C'est merveilleux. C'est un petit paradis.
Et des terrains pas chers. Pour nous, c'était... Bon, par contre, il a fallu tout faire, puisqu'on est parti des arbres, de la friche. Donc, c'est un travail titanesque. Ici, les gens nous ont dit, vous allez vous planter, les vieux sont partis, ils crevaient vraiment la misère, donc vous allez vous planter. Mais si on arrive à sortir quelque chose de bien, ça veut dire que des jeunes, on peut remettre debout des sols qui sont complètement abandonnés pour l'agriculture.
Et là, on rejoint aussi l'agroécologie.
Complètement.
Oui, tout à fait, parce que les jeunes dans les grands vignobles connus ne peuvent plus s'installer, à moins d'être héritiers, d'avoir la chance d'être héritiers, mais vous ne pouvez plus vous installer. Ici, il y a un potentiel absolument fabuleux. 70% du département est à l'abandon.
Et alors ce sol, il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a pas eu de pesticides pendant des années, quoi.
Rien, puis il y a encore une biodiversité incroyable, des insectes qu'on ne trouve plus quoi dans le Lot, des oiseaux, enfin il y a une grande biodiversité.
Hein. Ouais. Le sol, les gens qui viennent travailler, puisqu'on a bien entendu, nous on travaille encore sur les terrains pour d'autres vignerons et agriculteurs, donc automatiquement on a quelqu'un, et il dit, mais moi j'ai jamais vu un sol aussi souple, hein. Ils viennent le travailler... Ouais. Il dit, mais c'est du couscous, votre
oui, je elle est si incroyable. Faire du couscous avec, mais... Oui, voilà. Oui, non, mais sinon, oui.
Et il dit, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu une terre aussi souple, aussi... Elle est vierge.
Alors là, ce qui est formidable, c'est qu'on a en fait un camailleux de couleur de terre, quoi.
Il y a des terres blanches et des terres rouges...
Alors, les terres rouges, c'est l'oxyde de fer.
C'est l'oxyde de fer. Les terres blanches, c'est le calcium, le calcaire, hein, qui est très très abondant et qui va donner des minéralités au vin, des tensions minérales beaucoup plus tendues. Dans les argiles, la grande surface interne, on va avoir des vins plus larges, plus épaulés quoi, en dégustation.
Et puis on a aussi, donc là c'est plus sombre aussi de l'autre côté, aussi comme terre. Donc là...
Et là dans le bas, ben, on aura nos terres, nos cépages rouges. Ouais. Mais il y avait un dicton qui disait terre blanche, terre à blanc. Terre rouge, terre à rouge. Souvent, c'est vérifié. Et là, on est vraiment sur des terres blanches et on a privilégié. C'est du blanc pour nous ici.
Et alors, vous travaillez évidemment fidèle à votre ligne. Là, on voit des poules. C'est aussi des alliés, ça, les poules, Claude Bourguignon.
Ouais, elles mangent les insectes qui attaquent les bourgeons de la vigne. Ah, c'est des grandes nettoyeuses. Hein. Et puis elles travaillent gratuites. Puis elles ont ce joli mouvement des pattes, là. Un petit coup de patte à droite, un petit coup de patte à gauche. Et hop, des petits coups de bec pour attraper les parasites. Bon, voilà, on travaille pour nous.
Ils sont pour syndiquer, tout va bien. Voilà. Mais c'est ça,
puis on a planté des haies pour pouvoir, comme ça, on a des perdreaux qui lichent dedans. Il y a tout un monde qui revient, quoi. Et les chasseurs sont ravis d'ailleurs parce qu'ils ont à nouveau du gibier. Parce que autrefois, la culture française a été giboyeuse, faut pas l'oublier. Hein. Il y avait du lièvre, il y avait du lapin, il y avait du perdreau, on chassait.
C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire de l'élevage et après d'envoyer des cocottes la veille du jour de la chasse.
Absolument.
Alors, qui connaissent pour la nature.
qui ne savaient pas qu'il faut s'envoler, il faut les tirer au sol.
Vous arrivez ici en 2007, donc c'est le défrichage dans un premier temps. Puis après, c'est quoi les étapes pour mettre ce terrain en mouvement?
Alors, une chose qu'on a faite, quand on a défriché, il y avait beaucoup d'arbres. Et déjà, on a utilisé un outil qui avait été mis en place au moment de la tempête de 99. Ça s'appelle un croque-souche. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste pris, les arbres ont été coupés, on a pris la souche. Et cet appareil, c'est comme un bec de lièvre. Donc la souche est soulevée, elle est broyée et elle est reposée. Donc on n'a pas eu à faire rentrer un engin compliqué.
Dévastateur.
Donc le sol est resté en place malgré les arbres.
Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous labourez, vous plantez, qu'est-ce que vous faites?
Après, on passe un broyeur forestier pour broyer parce qu'on a laissé tous les branchages, toutes les racines, en fait tout ce qui était sorti. Ouais. On le passe au broyeur pour que ce soit bien, bien plat. Et on épand du bois raméal fragmenté.
On va juste rappeler ce que c'est, c'est-à-dire que ce sont des jeunes pousses d'arbres.
Voilà, des bois de taille de haies. Voilà. C'est toutes les tailles de haies, tous les paysagistes qui livrent la ville de Cahors, qui apportent tout ce qu'ils ont récupéré dans les jardins, dans les villes, etc. Ouais. Tout ça, c'est broyé. Et nous, on le prend avant compostage pour que ce soit les champignons qui dominent. Et donc, on a épandu ça. Il y a eu tout de suite des champignons qui sont mis à pousser sur le sol.
Donc, ils ont fait le travail. Et combien de temps après, on commence à planter les premiers pieds?
2009-2010.
Et nous allons poursuivre, bien sûr, ce voyage dans ce haut de mon amour sur France Inter avec Lydia et Claude Bourguignon parce que on n'en a pas assez. Ah bah oui, il nous faut une belle bouffée, mais il nous faut aussi une petite bouffée musicale. Très agréable, ça choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice, c'était Wilco, donc un groupe des États-Unis de Chicago qui s'est formé, on l'a senti un peu sur les cendres d'un groupe de country, et nous on va donc poursuivre ce voyage dans le Lot sur France Inter, c'est la journée du patrimoine, ça tombe bien, le sol qu'est-ce que c'est? Bah oui évidemment c'est notre patrimoine aussi commun, et puis on va se faire un peu atelier confiture là.
Bon, c'est bien, on a du pouillonnier, on a de la ronce, on a tout ça.
Comment on peut faire des confitures
Des confitures.
Ah, le cul dans l'herbe.
Allez, là on s'est mis le cul dans l'herbe, on est pas mal. Alors depuis des années, en fait, on le sait, vous êtes tous les deux des lanceurs d'alerte. Vous avez été vraiment en avance, vous avez expliqué que le sol, c'est pas simplement un support de plantes. Que la clé du sol, c'est bien toujours le champignon.
Le champignon qui est à la base de la pyramide alimentaire du sol, oui.
Puis bien sûr l'humus. On rappelle combien de temps il faut, enfin en moyenne, pour fabriquer un centimètre d'humus?
Mais donc en général, dans nos régions, on fabrique 1 à 2 tonnes de terre par hectare et par an, quand c'est vivant.
Et on constate quand même qu'il y a 30% à peu près de sol quand même bien érodé dans le monde, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors ça, c'est lié donc à quoi? Que l'on comprenne bien. Si on veut bien prendre soin de son sol, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais au départ, comment éviter de le dégrader?
C'est utiliser moins de produits de désherbants pour pas avoir de mauvaises herbes. Et puis, dans le monde de l'agriculture, des engins lourds. Et ça, ça a été vraiment la mort des sols.
C'est-à-dire que ce qui a tassé les
sols. Alors pourquoi ça marche pas? Ben, quand vous mettez un désherbant, vous voyez là, on est assis dans l'herbe, hein, on l'a gardé, parce que la faune, donc les colamboles, les acariens, les vers de terre, eh bien, en fait, ils se nourrissent de ça et ils font des crottes. Sur ces crottes, les champignons qui sont à la base de tout vont faire de la matière organique et ça, c'est l'or du sol. Si vous mettez un désherbant, il n'y a plus d'herbe, bah, vous faites mourir la faune. Et la faune, elle a un avantage, c'est qu'elle circule à la surface du sol. Donc, elle fait une terre grumeleuse et ça permet à l'eau et à l'oxygène de rentrer. Et à ce moment-là, ben, les racines, si vous mettez des plantes, les racines vont pouvoir descendre parce qu'elles ont besoin d'oxygène et d'eau.
Allez, on se relève. Ah, là au loin quand même, là on a des... C'est pas des animaux, c'est pas des sangliers, c'est des... Oui, il y a des casques et des roues et un moteur là. Hein.
Ah, là, c'est les motocross qui viennent dévaster un peu tous ces coteaux. Normalement, c'est totalement interdit par la loi, mais ici, personne ne dit rien, parce que c'est une terre abandonnée. Et ils font beaucoup de saccage, et après, ces traces servent de démarrage d'érosion, après. Parce qu'ils creusent fortement, et après, quand il pleut, ça prend la trace de la moto, et puis ça entraîne toute la terre en bas.
Claude Bourguignon, rappelez-nous quand même un petit peu l'histoire, parce que à la sortie de la guerre, bien évidemment, il fallait nourrir le monde. On était dans une France qui était encore tout à fait agricole et paysanne. On a eu besoin de main-d'œuvre, donc cette main-d'œuvre évidemment est partie, a quitté les campagnes pour aller vers l'industrie. D'un point de vue chimique, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi effectivement on est parti à fond sur les engrais, puis après sur les pesticides? Et à un moment, on aurait sûrement pu arrêter.
Alors on est parti là-dessus parce que les engrais, il faut en particulier l'azote, venaient directement de la poudre à canon. Et à la sortie de la guerre, les usines qui fabriquaient de la poudre à canon, il a fallu qu'elles se recyclent dans la vie courante. Et ils ont transformé les nitrates qui servaient à faire des bombes en nitrates pour l'agriculture.
Ça avait été les brevets de Haber Bosch.
Voilà, c'est Haber Bosch, les brevets qui ont été déposés par les Allemands. Et évidemment, cet azote a minéralisé la matière organique, qui fait que le taux de matière organique a été divisé par deux en France depuis 1950. Et divisé par deux, quand vous tombez au-dessous d'un certain... Il faut qu'il y ait un certain pourcentage de matière organique par rapport aux argiles. Et si on descend au-dessous, les argiles s'en vont. Et elles partent dans les rivières, et nos rivières sont pleines de boue.
Aujourd'hui, on va refaire quand même de l'agronomie. Alors, je suis optimiste, peut-être en disant ça.
Oui, aujourd'hui, les choses sont en train de changer, mais c'est encore très très lent. Les multinationales ont un pouvoir. C'est absolument dément, le pouvoir des multinationales par rapport à rendre complètement les agriculteurs dépendants d'eux, avec maintenant les produits soi-disant bio. Et en fait, on ne parle jamais du sol de l'agriculteur. En fait, donc il a tout le temps peur, il ne fait pas confiance à son sol. C'est terrible ça. C'est-à-dire, il va toujours utiliser des produits, mais il ne fait aucune confiance à son sol. Il est persuadé que s'il ne fait rien, en fait, son sol ne lui donnera rien du tout. Et c'est absolument faux. En fait, la nature, le sol, les sols sont extrêmement généreux. Et on est toujours en train de dire à l'agriculteur, maintenant c'est peut-être bio, mais quelque part, il est toujours dépendant de ces produits. Il faut absolument qu'on change cette idée-là.
Claude, là je vois des rosiers. Puis on voit une autre plante, c'est là, qu'est-ce que c'est? C'est de la bourdaine?
Oui, donc c'est la bourdaine qui est très utile parce que la tisane de bourdaine protège la vigne contre le mildiou. Donc dans la nature, on trouve en plus les plantes médicamenteuses pour la vigne.
Ça, vous faites quoi, de la pulvérisation?
Voilà, on fait une tisane et on pulvérise sur le feuillage.
D'accord. Et le rosier, lui, en revanche, est un indicateur.
Ça, voilà, il annonce l'oïdium 15 jours avant la vigne. Okay. Donc quand on voit les feuilles blanchir, on sait qu'il faut protéger le vignoble.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils se disent « Ah, c'est joli, ils ont planté des rosiers à l'entrée des vignes, c'est pour faire beau ». Non, c'est pas que pour faire beau. C'est un thermomètre, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce qui va faire bouger, puis aussi qu'est-ce que vous voyez, vous, de positif quand même, qui arrive? Est-ce que c'est par les jeunes agriculteurs? Est-ce que c'est justement parce que lorsqu'on a des limitations, on le voit très bien maintenant au Quintaux, on arrive un peu au taquet dans certains coins?
Non seulement on arrive au taquet, mais il y a même des zones qui baissent en rendement. Donc voilà. Ça, la grande promesse des 150 Quintaux en France en blé, qui devait être pour l'an 2000, on est en 2016 et personne ne fait 150 Quintaux, alors qu'ils ont des blés à 150 Quintaux en potentiel génétique. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à travailler avec Lydia au laboratoire, les agriculteurs étaient très fiers en Beauce de faire leurs 100 quintaux. Ils avaient des blés qui avaient des potentiels à 110 quintaux. Et ils faisaient 100 quintaux. Maintenant, ils ont des potentiels à 150 quintaux. Les mêmes, ils font 90. Ah oui. Donc là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un décalage qui est en train de se produire entre le potentiel génétique. Et c'est quoi la cause? C'est le sol. Le sol ne tissue plus. Le sol n'est plus capable de fournir ça.
Et en fait, le challenge, c'est remettre de la matière organique dans les sols. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est ça qui fera qu'on remettra la bécane en route, quoi. C'est quand même pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que, il faut les maraîchers, les arboriculteurs, dans la vigne, on peut travailler avec des composts. Ça, c'est quand même relativement facile. Et puis, chez les céréaliers, essayer vraiment de remettre en place ces techniques. Nous, on ne touche plus le sol, on fait moins de labour et on travaille entre leurs semences avec des plantes de couverture qui vont permettre en fait de nourrir la faune et de refaire du compost, enfin de la matière organique. C'est vraiment la clé, c'est la clé de voûte. Et c'est vrai que les jeunes, nous on voit, il y a des fois des vrais conflits entre les générations parce que les jeunes veulent changer, ils se rendent bien compte que ils sont la tête dans le mur, quoi. Et les anciens, en fait, ont beaucoup de mal à accepter qu'ils se sont trompés pendant 50 ans, quelque part. C'est difficile à accepter qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Et les jeunes veulent absolument aller dans ces voies-là. Donc, pour ça, il y a beaucoup d'espoir. Le problème, c'est qu'il faut du temps. Et les premières années, en fait, les rendements sont pas forcément là. Et c'est toujours le rendement. Donc, en fait, ces jeunes, il faut les accompagner. Et politiquement parlant, il faudrait qu'il y ait une vraie mesure pour accompagner des jeunes ou, enfin, le monde agricole qui veut changer et aller vers ces techniques-là. Parce que si on les épaule pas, ben, ils ont une famille. Enfin, bon, et puis, ils sont déjà que... Il y a des agriculteurs qui gagnent déjà peu leur vie. Donc, il faut absolument accompagner ces nouvelles techniques, donner confiance. Et ça, c'est le gage de changer.
Vraiment, ça rythme hein, ces paysages du Lot, lorsque l'on voit ces petits caillolards ou bien tous ces cailloux.
En Bourgogne, on appelait ça les murgets.
Oui, c'est ça.
C'est pareil. Hein, et en Bourgogne, il y avait ces gariotes ou les cabottes ou les boris. En fait, dans tous les paysages viticoles, il y avait ces petites maisons qui portent toutes des noms, je trouve, en plus très chantants ici, ces gariotes ou caselles, les boris. Donc là, on en a restauré une. Là, il y a une gariote. C'était là où les ouvriers venaient se mettre à l'abri. Et beaucoup de gens nous ont dit qu'il faut pousser tout ça au bulldozer. Ça va vous embêter et tout.
Vous avez gardé la gariote.
Et on a gardé la gariote. Les gens restaurent des maisons, on restaure des monuments historiques. Oh. Et nous, on a dit qu'on va restaurer un patrimoine viticole. C'est-à-dire qu'on garde tout les murgets, tout ça.
Il a dû se passer des choses dans la gariote. Hein. À mon avis, si les murs de la gariote pouvaient parler... Et oui, on est dans le patrimoine, hein. C'est vraiment, là voilà, on est avec ces vieilles pierres. Les murgets, ça vous rappelle pas, hein, ce murget? Eh ben oui, ça vient de là, ce pochereonnet, donc à consommer franchement avec modération. En revanche, ne pas consommer avec modération, donc toute cette pédagogie sur le sol, distillée par nos amis Lydia et Claude Bourguignon. Ah ouais, là c'est... On va être dans le caillou, on va être dans la pierre d'ailleurs, tiens. Ah bah oui, c'était des pierres qui roulent, ce qui tombe assez bien quand même dans le sol, nos amis Rolling Stones, qui vont pas mal non plus, me semble-t-il. Hein, voilà. Et alors donc, dans cette période, on va dire, de foire au vin, dans cette période de vendange, eh bien, nous poursuivons notre balade avec Lydia et Claude Bourguignon, dans leur sol, dans les vignes, dans le Lot. Ah, un peu d'eau.
Là, on est en haut de la colline et il y a de l'eau. Les anciens, ils l'ont capté, puis ils ont fait un puits. Puis on voit que le bord du puits, il est gris-bleu. Hein, c'était la bouillie bordelaise, hein, pour protéger contre le mildiou. Eh bien, depuis qu'on est ici, on ne l'a jamais vu à sec. Et pourtant, on est en haut de la colline. Ils étaient quand même bons, hein, les anciens. Ils savaient trouver l'eau. Hein. C'est impressionnant. Hein.
On est à 300 mètres. Hein, là.
Et là, on a 300 mètres d'altitude. Et dans le haut de la colline, il y a le puits. Et donc, ils prenaient leur eau, puis ils allaient traiter.
En fait, l'eau, elle servait qu'à ça, qu'à traiter, pas forcément à boire ici. Non,
ici, on buvait plutôt du vin. Non, hein. Oh, ouais. Il y a un peu d'eau de vie quand même.
Ah ouais.
Pour désinfecter.
Pour désinfecter.
Claude Bourguignon, si on regarde aussi ce qui se passe dans le monde, on va juste rappeler que je crois qu'il y a quoi, 5% maximum des agriculteurs qui ont un tracteur. Les trois quarts, c'est du vivrier. C'est aussi beaucoup de femmes qui travaillent et qui sont agricultrices aujourd'hui. Et donc, y en a beaucoup qui prouvent que l'on peut, sur un sol même aride, que ça peut être possible. Mais une fois de plus, il faut transformer l'homme qui était chimiste en agronome, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut... remettre de la science, qu'on a oublié, remettre de la science à l'agriculture, c'est-à-dire comprendre les lois du sol et arrêter de les violer. Si on respecte les lois du sol, la nature, elle pousse merveilleusement. On va en Afrique, les forêts sont somptueuses. Enfin, donc ça montre que si on respecte ces lois, ça ne demande qu'à pousser. Mais que nous, on les viole, on fait l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Donc on retourne la terre alors qu'il ne faut pas la retourner, on fait tout de travers. Donc forcément, après on se dit, tiens, ça ne marche plus. Ben oui, mais parce qu'on a cassé, on n'a pas respecté ces lois. Et ces lois demandent un investissement en connaissances, en sciences, et non pas des techniques. Ce n'est pas de technique dont elle a besoin en agriculture. Oui. C'est de science, comprendre le sol, avoir l'humilité de se pencher sur tous ces petits animaux qui peuvent paraître minables, ces vers de terre, et étudier leur, regarder comment ils fonctionnent, parce que chaque situation est différente. En Afrique, c'est les termites qui dominent, qui sont fondamentales. Nous, c'est les vers de terre. Chaque région a sa faune particulière qu'il faut savoir respecter et travailler avec elle.
Oh ben là, je vois de jolis petits cornets, hein, donc au pied de chaque vigne, parce qu'on se doute bien que vous n'êtes pas tout seul à venir, surtout la nuit, non?
Oui, il y a beaucoup de lapins, enfin de lièvres, non, pas que je dise de lapins, mais il y a beaucoup de lièvres. Et dès qu'il y a des jeunes pousses, en fait, ils se jettent dessus. Donc on est obligé de protéger les jeunes, hein, parce que bon, comme c'est un sol qui est quand même... Vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de cailloux. Et puis si on gratte, on est tout de suite sur la roche.
Ouais.
Donc, il y a certaines vignes qui ont du mal. Et si les lièvres... Il y a des lièvres qui, tous les ans, casse-croûte. Et là, cette année, on a dit, terminé. On va arrêter le casse-croûte des lièvres et on va s'occuper de nos vignes.
Ça, on peut pas vous en vouloir. C'est... D'accord. Là, on a beau aimer la nature. Bon, d'accord. On est quand même sur du calcaire ici, donc là ça vous apporte ce qu'il faut.
Oui, c'est calcaire, c'est du phosphate de calcium, voilà. c'est des coquilles et des restes d'animaux marins, donc il y a du phosphate de calcium. Par contre, il n'y a que les mycorhizes qui peuvent aller le chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut relancer d'abord les champignons, parce que toutes les vignes sont mycorhizées, et c'est les mycorhizes qui vont aller chercher le phosphore du calcaire pour la vigne.
Est-ce qu'on n'a pas cette fois-ci, pour l'agriculture, on va dire, industrielle, est-ce qu'on n'a pas un problème potentiel par rapport au phosphore? Parce qu'il faut quand même aller le chercher celui-là. On en rajoute, et donc il y a des mines qui sont au Maroc, d'autres coins, mais on dépend, enfin, notre agriculture est quand même dépendante.
On rajoute de tout parce qu'en fait, on n'a pas d'activité biologique, ce qui est très difficile à faire comprendre. Ce sont les microbes qui vont solubiliser les éléments qui sont dans la roche. Donc il peut y avoir des sols qui sont carencés en phosphore ou en potasse ou en calcium, mais en règle générale, en profondeur, il y en a. Mais si vous n'avez plus du tout de microbes, vous êtes obligé de rajouter. Et c'est ça la fertilisation. C'est parce qu'en fait, les sols ne sont pas vivants. Donc on compense et on met ces produits sous forme liquide. Hein, souvent, c'est des chélas, le séquestrène, les agriculteurs le connaissent bien. Et c'est des produits qui sont très très chers, alors que les microbes travaillent gratuitement, font exactement la même chose. Donc plus on a un sol qui n'a pas d'activité biologique, plus les agriculteurs sont obligés d'utiliser de la fertilisation. Et c'est obligé, parce que sinon la plante est carencée et elle ne va pas jusqu'au bout.
Alors c'est assez marrant parce que je fais un parallèle avec le corps humain. Depuis, 5 ans, les gens comprennent, on vous dit qu'on a un deuxième cerveau qui est l'intestin, mais dans notre intestin, nous avons à peu près 2 kilos, on va dire, de bactéries qui font aussi un boulot formidable. Voilà, on s'y intéresse maintenant différemment. Et pareil pour le sol.
Oui, c'est la même chose. On regarde au microscope une villosité intestinale ou une racine, un poil absorbant de plante, c'est, à moins d'être physiologiste, vous ne pouvez pas les distinguer. Hein.
Ah oui,
hein, c'est exactement pareil. En fait, c'est le même principe, c'est les microbes de notre intestin qui nous donnent à manger et nous, on les absorbe par nos villosités intestinales. Et la plante, elle va donner du sucre par sa photosynthèse aux microbes et les microbes, en échange, ils donnent à manger.
Les anciens, quand au début on a eu du mal parce qu'ils nous ont pas très très bien vus, les parigots, enfin bon.
Oui, comme d'habitude,
et, quand on est arrivé et qu'ils ont vu bon que le travail qu'on se mettait.
Le respect là quand même.
Là il y a eu un vrai respect et on a entendu des personnes âgées qui sont venues nous dire quand ils travaillaient, donc vous voyez en face puisqu'on le voit,
ouais.
Et quelqu'un, un monsieur âgé nous disait quand j'étais gamin je travaillais avec mon père ou mon grand-père et puis on jouait et tout. Puis à un moment, bon, on partait et il y avait le père ou le grand-père qui disait « Dis donc, gamin, t'oublies rien ?» Alors le gamin disait « Ben non. » « Et des poches ?»« Ben, il n'y a rien. Tu prends deux cailloux et tu vas les poser sur le muret.
Ouais, »
Et c'est comme ça que les murets ont été faits.
À chaque fois, il fallait ramener son caillou.
Ou deux cailloux ou dans deux les cailloux. Poches. Et, qu'on, et on dépierrait la parcelle et c'est tout ce qu'on voit là.
Et alors ce chien merveilleux là qui attaque les lièvres là, c'est un quoi comme...
C'est un Staffy.
C'est quoi un Staffy?
Un Staffordshire Bull Terrier.
Ah oui, oui, c'est, bon,
c'est une race anglaise. Ouais, mais il est très gentil, pas méchant.
Bon non, pas du tout. Les lièvres, c'est super. Et pour les lièvres, oui, c'est super.
Oui, les lièvres, ils mangent.
Marcher, et puis d'accord. Et puis il nettoie les pantalons, donc en plus.
Il nettoie les pantalons et surtout les bottes.
Ah oui.
Et bon, surtout les bottes et les chaussures cirées.
Bah ça m'étonne pas, c'est un fétichiste, votre clébard, donc c'est où être ça. Allez mon pépère, il y a un lièvre là-bas. Va un lièvre. Allez, allez, cours, 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 allez, hop.
En 2016, ce sera vraiment la première très belle vendange.
Croiser les doigts. Oui. Croiser les doigts qu'il n'y ait pas de grêle, parce que ça, c'est toujours la terreur du vigneron. Oui. C'est la grêle.
Et ce paysage.
Oui. C'est un paysage. C'est d'une beauté, là. C'est tranquille, c'est magnifique.
Vous avez envie de donner exemple, si ça marche, sur des terres dites ingrates ou bien pas faciles à cultiver, on peut y arriver.
Voilà, on peut y arriver. Si on retrousse les manches, on peut y arriver. C'est pour ça qu'ils attendent, les gens sont assez impatients de voir quel va être le vin qu'on va sortir, parce que ça peut être vraiment une chance pour ce département. Il y a des, regardez, les hectares, ouais, il y a complètement l'abandon où des jeunes pourraient s'installer, pourraient créer une famille, pourraient faire une économie. Et c'est ce qu'on dit au département du Lot, on dit voilà, vous avez manqué le 20e siècle. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de,
oui,
bon, il n'y a pas d'aéroport, bon, ils ont manqué ça.
Ils n'ont pas Notre-Dame-des-Landes.
Ils ont pas Notre-Dame-des-Landes, tout ça.
Ils n'ont pas de PR.
Exactement, ils n'ont pas tout ça. Voilà, donc ils ont loupé le
20e.
Et on leur dit, mais surtout, loupez pas le 21e, parce que le 21e va être le siècle de la biodiversité, de la nature, etc. Et là, ils ont un atout absolument extraordinaire. Ils ont une architecture magnifique. Ils ont une nature encore intacte, des sols vivants. Ici, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des complexes vis-à-vis des autres régions. Faut dire, voilà, on a loupé cette époque-là, ben on l'a loupé. Maintenant, on part pleine tête dans le 21e siècle.
Alors les choses sont dites avec tendresse parce qu'il est très beau ce département et les gens y vivent quand même plutôt pas mal. Et quand ils y sont, en général, très souvent, eh ben ils y restent. Grand merci à Lydia et Claude de Bourguignon, Anne Gouzon qui nourrit les sites, qui a aussi son Twitter, Initia Verte. Eh bien, donc à indiquer, je pense, le site aussi de Lydia et de Claude Bourguignon, puisque nous sommes dans le Twitter, le nôtre, enfin le mien, c'est chez Sou, tout simplement, comme ça vous le savez. Le podcast, vous en avez l'habitude, mais maintenant on a pu découper le merveilleux et grotesque billet d'humeur de début d'émission. Donc vous avez la possibilité de l'écouter aussi séparément. 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, ça sert à plein de choses. Vos initiatives, surtout ne vous gênez pas, et puis vos réactions et aussi vos annonces.
Bonjour Denis, la 5e édition des rencontres Objectif Nature va se tenir du 20 au 25 septembre au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux-Saint-Auban dans les Alpes de Haute-Provence. Le thème sera l'homme au cœur de l'environnement, c'est-à-dire son action, mais aussi ses responsabilités. Films, expositions, conférences, débats, sorties nature, parcours scolaire, ateliers seront au programme. Nous recevrons Pierre Micheletti, ex-président de Médecins du Monde, qui évoquera les dangers écologiques et sanitaires des rejets chimiques en Méditerranée. Jean-Marc Bonmatin, spécialiste des pesticides, débattra du film « Insecticide, mon amour ». Toutes les précisions sont sur notre site www.objectif-nature-haute-provence.fr. Merci, Denis. Au revoir.
Mais je vous en prie, c'est pas beau ça, insecticide, mon amour. Bah oui, on a fait des petits. Quand la nature inspire les écrivains, eh bien c'est notre nouvelle séquence hein, depuis donc le mois de septembre. Eh bien, vous allez comprendre. Écoutez cette voix.
Les premières années de ma vie se sont passées dans le sud du Chili. Je suis un homme de maisons de bois. On vient de couper les arbres, on commence à faire les maisons, on commence à se partager la terre sans argent. C'est-à-dire que je suis un fils de pionnier.
Après Colette, après Mark Twain, aujourd'hui c'est Pablo Neruda. Donc, quand la nature inspire les écrivains, aux éditions Plume de Carotte avec son auteur, nous partons au Chili. Bonjour Elisabeth Combre. Quelle fut en fait l'enfance chilienne de Pablo Neruda ?
Bonjour Denis. Ah, une enfance au cœur de la nature australe, hein, dure, hein, une nature difficile. Et toute l'œuvre de Neruda est irriguée par la nature et c'est là qu'il faut en chercher la source. Neruda a grandi dans la ville de Temuco. Alors, c'est en Araucanie, c'est dans une région du sud chilien qui fait alors frontière entre les territoires alors conquis par les Espagnols et puis les terres encore indiennes, qui ne vont pas le rester longtemps. Mais cette proximité avec les Indiens araucans, en grande partie donc massacrés par les conquistadors et leurs descendants, va profondément marquer Neruda. Il se sent proche de ces Indiens parce qu'il vit sur la même terre qu'eux. Il parlera toute sa vie dans sa poésie des pluies et des brouillards tenaces apportés par le Pacifique, des forêts denses où la faune et la flore s'épanouissent dans un monde vertical. Hein, c'est humide, c'est feuillu, c'est moussu. Il a fait d'ailleurs un merveilleux portrait de cette forêt au début de ses mémoires qui sont parus de façon posthume en France, qui titrait « J'avoue que j'ai vécu ». Et il raconte aussi son enfance.
Et cette enfance, bah justement, en fait, elle est très souvent en vadrouille avec son père qui est cheminot parce qu'il faut refaire en fait, le ballast des voies qui a été malmené par les ouragans. Et là, pour lui, c'est un lieu d'observation incroyable.
Donc oui, son père est cheminot, il est à la tête d'une équipe de concasseurs, de casseurs de cailloux. Ils descendent dans le sud et il se retrouve dans la forêt, il se retrouve dans une nature presque vierge. Et il découvre cette forêt remplie d'insectes. Il se passionne en particulier pour les insectes. Il est passionné par les scarabées en particulier. Et puis ça, tout ça sous le regard étonné des concasseurs. Certains d'entre eux sont des bagnards fraîchement libérés, à qui il faut donner du travail, donc on les envoie dans le Grand Sud. Un d'eux qui l'aide à trouver des scarabées. Je pense que Neruda a certainement expérimenté là aussi cette solidarité entre les hommes perdus dans des coins très très isolés, dans cette nature si ce n'est hostile, en tout cas plutôt rude.
Alors Elisabeth, il y a donc ses ancêtres racines, que sont ces Indiens, et puis ces poètes aussi donc qui sont des frères. Et puis cet homme-là, tout au long de sa vie, on rappelle qu'il est mort en 1973, mais il a évidemment vu la guerre d'Espagne, parce que donc il s'est retrouvé consul à Madrid en 1937. Et alors là, il a vu l'assassinat de García Lorca, mais il a eu un véritable engagement. Et puis il a portraitisé aussi les gens qu'il voyait, les gens de la terre qu'il voyait.
Il a fait notamment le portrait d'un poète qu'il appelle un poète paysan, Miguel Hernandez. Et ce poète-là, quand il parle de lui, il parle de visage en mode de glaise.
Il avait un visage de mode de glaise ou de pomme de terre qu'on arrache d'entre les racines et qui conserve sa fraîcheur de sous-sol. Il me racontait des fables terrestres d'animaux et d'oiseaux. Cet écrivain sorti de la nature était comme une pierre intacte, avec une virginité de forêt, une force et une vitalité irrésistibles.
Et c'est ça qu'il raconte, c'est la force et la vitalité de ces hommes qui, quand ils croient en ce qu'ils sont et en ce qu'ils font. Et malheureusement, nombre d'entre eux seront victimes de Franco. Miguel Hernandez est mort dans les geôles de Franco. Mais voilà, il a ce temps de poésie engagée. Mais ça l'empêche pas aussi d'écrire sur les bonheurs, sur les petits bonheurs. Il avait un fond d'énergie positive, Neruda, qui lui a fait écrire des textes merveilleux, où il parle des objets du quotidien, des tout petits insectes, toujours la nature. Il va parler d'une abeille, il va parler, mais aussi de ce qu'il voit dans son jardin. Alors il aimait jardiner, Neruda. Il va parler de papillons, de patates, de brise marine, ce qu'il voit au seau du lit, une chaussette, une théière au petit déjeuner. Et il en fera une poésie fantastique.
Merci beaucoup donc de nous avoir rappelé que aussi l'œuvre de Neruda donc était irriguée par la nature de part en part. Et puis donc je vous renvoie à ce livre, Quand la nature inspire les écrivains, aux éditions Plume de Carotte. Merci Elisabeth Combre. À bientôt.
À bientôt Denis.
Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera Jean-Jacques Rousseau devant ce micro, ou presque. Non, alors, sinon, bien sûr, ce sera Rousseau pour Quand la nature inspire les écrivains. Mais sinon, c'est Edgar Morin qui sera devant ce micro. Donc, un gamin de 95 ans, extrêmement éclairé et éclairant pour nous. Donc, Edgar Morin donc, sera l'invité principal de CO2 Mon Amour la semaine prochaine. Donc, ne le loupez pas. Le Twitter, vous l'avez chez Sous, les podcasts, vous en avez l'habitude. Merci à Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites. À Kevin Pello qui a mixé le reportage brillamment colorisé par Xavier Pestugia qui choisit régulièrement, enfin tout le temps d'ailleurs, les sons, les ambiances, les couleurs. Anne-Laure Cochet, Elodie Royer, merci à Camille Blanès, notre assistante. Et puis, un petit coup de la tulu, mon petit loup, ce sera un spécial Roald Dahl, tenez, pour ses 100 ans. Ce sera demain à 19h54.